20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, une belle célébration de l'amitié ce soir avec Alexandre Tarot et quelques-uns de ses complices, des partenaires de cet album qui vient de paraître chez Erato, Alexandre Tarot and Friends, dédié au genre du piano à quatre mains. 22 duos qu'Alexandre Tarot partage avec, entre autres, Momo Kodama, Frédéric Vesknitter et Philippe Jaroussky. Philippe Jaroussky, non pas le chanteur ou le chef d'orchestre, mais bien le pianiste. Ils seront tous les quatre avec nous ce soir. Et cela le temps d'une petite escapade en Sicile avec Leonardo Garcia Larcón et sa Cappella Mediterranea. Ce savoureux spectacle Amore Siciliano, dont nous avions pu profiter il y a 2 ans sur Radio Classique, sera repris le 23 mai à la MC2 de Grenoble, tandis que sort cette semaine sa version au disque chez Alpha. Amore Siciliano, c'est une histoire d'amour, de drame et de trahison, un pasticcio composé de chansons populaires, chansons et danses calabraises, siciliennes et napolitaines, et de répertoires savants italiens du XVIIe et du XVIIIe siècle, et cela autour d'une histoire centrée sur un personnage prénommé Cecilia.
Se tu mi dai l'amore, se tu mi dai l'amore, lo mando a libertà.
Oh, capitan maggiore, capitan maggiore, aspetta un momentino, io vado a dire a Peppino se te lo posso dare.
Guardati l'onore, riguardati l'onore di me non ti importare.
Canzone di Cecilia, une chanson anonyme italienne, extraite de ce pastiche Amore Siciliano, imaginé par Leonardo Garcia Larcón, avec sa Cappella Mediterranea et avec ici Valerio Contaldo, Anna Viera Leite et Matteo Bellotto. Un voyage dans l'Italie du Sud à savourer au disque, cela paraît cette semaine chez Alpha et en concert le 23 mai à la MC2 de Grenoble.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Beaucoup de monde ce soir dans notre petit studio. Tous nos micros sont occupés. Derrière ces micros, Alexandre Tarot et quelques-uns de ses amis, ils sont 22 si j'ai bien compté, réunis pour cet album Alexandre Tarot and Friends qui vient de paraître chez Erato. Alors 3 de ses amis sont avec lui ce soir. Frédéric Vesknitter, Momo Kodama et Philippe Jaroussky. Bonsoir à tous les 4.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a une intimité, on se trouve réunis très nombreux dans une petite pièce, c'est l'intimité du piano à quatre mains, hein. Alexandre.
Ah, le quatre mains, c'est vraiment la configuration de musique de chambre la plus intime. Quand on joue ensemble, d'abord on se touche, celui de gauche touche le bras gauche de celui ou celle de droite. On se sent, on respire ensemble. Il est assez facile d'ailleurs de commencer à jouer à quatre mains parce qu'on ressent la pulsation intérieure de l'autre. On ressent beaucoup de choses très intérieures. Et puis, sur scène, les deux pianistes peuvent se parler. Chuchoter.
Ah oui.
Oui, c'est la seule, encore une fois, la seule configuration de musique de chambre qui soit aussi intime.
Ah oui, donc on se chuchote à l'oreille alors que les spectateurs écoutent religieusement sans faire de bruit.
Exactement.
Alors, vous êtes quatre, mais il n'y a que trois pianistes, en tout cas trois pianistes professionnels dans cette salle. Philippe Jarouski, on pensait que vous alliez chanter dans cet album. Moi, quand j'ai mis la plage où vous intervenez, j'ai été très étonnée d'entendre du piano à quatre mains, puisque vous vous êtes mis au piano.
Oui, je suis le premier étonné. Je me rappelle du coup de téléphone d'Alexandre qui me disait « j'ai un nouveau projet, est-ce que tu veux y participer ?» Je lui ai dit « qu'est-ce que tu veux que je chante ?» Elle m'a dit « je veux pas que tu chantes ». Alors là, j'ai eu un petit peu peur. Et puis finalement, il m'a proposé effectivement, il savait que je jouais un petit peu de piano. Et puis c'est bien tombé parce que c'était, on était un petit peu en fin de Covid, je crois. C'était dans les derniers... Les derniers soubresauts, et c'est vrai que ça faisait 2 ans que je m'étais évidemment un peu remis au piano pendant les confinements. Et il a, je dois dire, comblé une énorme frustration de musicien, d'instrumentiste raté, puisque j'ai massacré le violon en premier, puis le piano. Et je suis très très heureux de faire partie de cet album, et c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait.
Comment est née cette idée, Alexandre, de réunir tous ces pianistes? On va en parler, certains qui vous sont proches depuis de longues années, puis d'autres que vous avez peut-être rencontré tout récemment.
Oui, elle vient de loin comme tous mes albums, mais ce n'était jamais ma priorité. Il y avait toujours d'autres choses que je voulais enregistrer plutôt que... Comme ça, je savais aussi que ce serait très difficile d'enregistrer, en l'occurrence, 22 pianistes, enfin, dans différentes périodes, mais quand même, c'est un disque qui s'est monté sur 4 ans quand même. Mais c'était le Covid. Et au départ, donc on est en mars-avril 2020, j'ai appelé mes amis pianistes qui étaient là sur Paris, j'aurais dit « est-ce que tu as le temps ?» Évidemment, ils avaient le temps. Et on a commencé comme ça. Et c'est en effet un grand éclat de joie, d'amitié avec des musiciens, des amis, certains de très longue date comme Momo et Frédéric qui sont là à cette table que je connais depuis l'époque du conservatoire. Donc Momo, j'ai dû te voir la première fois, tu avais 12-13 ans comme ça, à la main de ta mère. Des amitiés comme ça se sont forgées au fil des ans. Et c'est beau, une amitié entre deux pianistes. On s'écoute, on se porte, on se supporte. Frédéric qui est là, je vous donne un exemple. Dès que j'ai un nouveau programme de concert, je vais lui jouer. Et il me dit les choses. Quand deux pianistes sont très amis, c'est aussi, comment dire, une confiance. Et je crois que seul un pianiste soliste peut comprendre un autre pianiste soliste. La vie de pianiste soliste est belle, mais parfois elle est effroyable. Et dans les moments les plus difficiles, je pense que c'est vers nos amis pianistes que l'on se tourne.
C'est justement, j'imagine, cette célébration de l'amitié qui vous a tous touchés et convaincus de participer à ce projet, Momo notamment.
Oui, j'étais très touchée quand Alexandre m'a proposé ce projet. C'est quelque chose de partager un clavier, parce que ça aussi, c'est une vraie amitié, parce que normalement, on est seul, et avec la pédale aussi, que l'autre personne... fasse la pédale à notre place. Pour moi, c'est le plus difficile, le quatre mains. Et il faut vraiment une vraie amitié et confiance. Et ça, c'était vraiment un moment très, très précieux pendant le Covid qui a abouti à ce merveilleux disque. Alexandre, que j'ai connu à l'âge de, comme il disait, 12-13 ans, qui était toujours très créatif. Déjà, quand il arrivait au conservatoire, il voyait un mur et il voyait autre chose qu'un mur. Et c'était toujours passionnant parce qu'il restait jamais sur place dans ses idées. Et ça continue avec cet album. Et je suis extrêmement heureuse d'en faire partie. Donc merci, Alexandre.
Merci beaucoup. Je crois que quand on joue du quatre mains, quel que soit notre âge, on a toujours 5-6 ans. On est des enfants. On retourne en enfance.
Et on va commencer avec une pièce qui évoque le monde de l'enfance, une pièce de Debussy que vous jouez, Frédéric Wechsniter, avec Alexandre. Vous avez joué très souvent en quatre mains ensemble.
Nous avons, oui, joué pas mal d'œuvres ensemble depuis très longtemps. Et comme on le disait, en fait, c'est une amitié intime. Parce que, comme le dit Alexandre, deux pianistes concertistes se comprennent. Et lorsqu'ils jouent ensemble à quatre mains, ils partagent une amitié extra-musicale profonde, mais aussi cette compréhension dans le non-dit, en fait. On n'a pas besoin de se dire les choses, on se comprend dans l'intimité. Donc c'est un vrai bonheur.
En bateau, tiré de la petite suite de Debussy par Alexandre Tarot et Frédéric Weskneter, un extrait de cet album, Alexandre Tarot and Friends, qui vient de paraître chez Erato. Alexandre Tarot, qui a invité 22 amis pour cet album. Trois d'entre eux sont avec lui ce soir en notre compagnie, Frédéric Weskneter, Momo Kodama et Philippe Jarouski. On est ici dans un monde onirique, très sensuel, qui rappelle aussi le monde de l'enfance. Quand on est un musicien, quand on est un pianiste, et quand on joue du répertoire à quatre mains, on est forcément encore dans ce monde de l'enfance, on ne l'a jamais quitté quelque part.
Vous savez, il y a une ribambelle de pièces pour quatre mains qui sont très faciles à jouer. Au bout de 6 mois de piano, on peut jouer des pièces de quatre mains. Et puis le répertoire lui-même, le grand répertoire du quatre mains, est souvent lié à la danse, je pense aux danses hongroises de Brahms, et beaucoup à l'enfance, la petite suite de Claude Debussy, les pièces de Jean Français par exemple, Dolly de Gabriel Fauré. Donc oui, on se retrouve un peu enfant. Et puis c'est une activité familiale parce que le quatre mains, il est né au 19e siècle, quand le piano familial de toute famille bourgeoise servait de disque, en fait, pour écouter, oui, de la musique. On jouait à quatre mains les transcriptions d'opéra, de symphonie. C'est né comme ça, l'histoire du quatre mains.
Pour cet album, il y a donc 22 plages, 22 partenaires différents à vos côtés et 22 compositeurs différents. À chaque partenaire correspond un compositeur. Pourquoi Debussy d'ailleurs pour vous? Vous l'avez choisi ensemble, Frédéric?
Ce choix est arrivé assez simplement parce qu'on a déjà beaucoup joué de Debussy ensemble, de cette idée de Debussy, de cette musique de cette période-là. Et en bateau parce que toutes les pièces que l'on a jouées ont toujours eu un petit souvenir d'enfance et Debussy qui m'est très très cher. Donc je pense que c'était assez évident.
J'ajoute que Frédéric est pour moi l'un des plus grands interprètes de Debussy. Il m'a touché aux larmes quand je l'ai entendu plusieurs fois en concert jouer ce compositeur.
Et pourquoi avoir suggéré Gabriel Pierné à Philippe Jarouski? Parce que vous avez choisi une œuvre rare, hein, pas si facile
oui,
en plus.
Contrairement à ce côté enfantin, je me suis dit c'est ma chance d'enregistrer une pièce pour piano. Alors je l'ai pris très au sérieux et peut-être mon côté un peu baroqueux, j'ai commencé à regarder un petit peu le répertoire. Je me suis rendu compte que je ne suis pas totalement sûr, mais que cette pièce est pratiquement un inédit au disque. Et puis j'ai commencé à la regarder un peu et donc Alexandre est venu à la maison. Et je me rappelle effectivement par rapport à ce côté intimiste, quand j'ai travaillé évidemment comme un fou avant qu'il arrive ma partie de droite. Et effectivement, je n'avais pas réalisé à quel point il y avait des croisements sur sa main droite et ma main gauche. Et c'est vrai que c'est ma première expérience vraiment de quatre mains. Et je trouve cette pièce très charmante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Ouais. Plus que charmante, elle a l'air charmante comme ça au départ et elle bouleverse beaucoup. Je trouve qu'elle est très belle, très profonde.
On l'écoutera tout à l'heure. Alors le quatre mains, on se partage un clavier, il y a les aigus, il y a les graves. Les aigus en général, ils ont plutôt la mélodie, les graves vont installer l'accompagnement, l'harmonie. Vous jouez plutôt la partie grave dans cet album.
Parfois on essayait. Ouais. Avec David Frey, par exemple, notre Bach, on a dû faire une quinzaine de prises dans une configuration, une quinzaine dans l'autre. Moi, j'aime bien être dans les graves parce que finalement, seconda à gauche, prima à droite. Le seconda, c'est lui qui insuffle le souffle, qui donne la pulsation, qui met la pédale aussi, qui gère un peu les choses. Je suis un petit peu chef d'orchestre là. À droite, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de son. Alors, il faut savoir qu'aux quatre mains, celui qui est à gauche ne peut pas supporter celui qui est à droite parce qu'il n'a pas assez de son. Et celui qui est à droite trouve toujours que celui qui est à gauche a un son beaucoup trop gras, énorme, et ne fait pas attention à lui.
Alors Momo Kodama, vous êtes à gauche puisque vous tenez les graves.
Alexandre est toujours très gentleman, alors il m'a donné la partie de basse. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les rythmes, à faire les timbales qui sont dans le trio, enfin cette transcription de...
Voilà, pourquoi avoir choisi aussi justement des transcriptions, puisque là c'est le célèbre Rondo à l'Ungarese d'un trio de Haydn.
Je voulais faire un panorama assez complet, si tant est qu'on puisse faire un panorama complet en un seul disque, montrer, comme j'ai montré avec Philippe, qu'on pouvait jouer du quatre mains avec des non-pianistes. L'histoire de la transcription à quatre mains, c'est quand même phénoménal et fondateur dans l'histoire de la musique, tout simplement.
Et c'est une musique, j'imagine, Momo Kodama, assez jubilatoire à jouer cette musique de Haydn.
Oui, on s'est beaucoup amusé, je pense, sur l'enregistrement. Il y a eu plusieurs transcriptions possibles aussi par différentes personnes. Donc on a essayé un peu et puis on a rajouté d'autres choses un tout petit peu à nous. Ça aboutit à cette transcription.
Cette partition, c'est un vieux truc. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça à la maison, une très vieille partition comme on peut en trouver parfois où il y a plein d'œuvres différentes. J'adore ça, comme quand on peut regarder le dos des vieilles partitions, vous avez plein de compositeurs différents, ça donne envie. Et là, c'était une vieille partition avec marqué quatre mains dessus, avec plein de transcriptions bizarres, avec des noms pas très connus. Mon idée d'enregistrer cette pièce de Haydn vient de là. Thank you.
Le rondo à l'ungarese de Haydn, version piano à quatre mains, arrangement d'un célèbre trio de Haydn joué par Alexandre Tarot et Momo Kodama. Ils sont tous les deux avec nous ce soir, ainsi que Philippe Jarouski et Frédéric Weissknitter qui participent à cette belle aventure qui a donné lieu à cet album Alexandre Tarot and Friends qui vient de paraître chez Erato. 22 musiciens, dont 3 qui sont avec nous ce soir, 22 partenaires. Certains qui ne sont pas pianistes à la base, comme Philippe Jarouski, Gauthier Capuçon aussi,
qui joue très bien du piano. La chanteuse Juliette aussi, on se connaît depuis très longtemps et qui est vraiment une pianiste formidable.
Voilà, l'habitude de s'accompagner au piano. Et puis il y a un Mr. Nobody. Est-ce qu'on peut avoir quelques éclaircissements sur ce mystérieux partenaire?
Vous avez plusieurs options. Ça peut être un pianiste qui ne peut pas mettre son nom sur la pochette car il est étriqué avec sa maison disque. Ça peut être moi-même aussi.
Ouais.
Ça peut être moi-même qui joue. Je peux avoir enregistré la droite ou la gauche. Et la troisième, ça peut être un pianiste pas du tout connu, qui ne veut pas apparaître sur ce disque, mais avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer. Il y a d'autres options à mettre sur la table.
Et puis vous jouez avec des partenaires de différentes générations qui ont des tempéraments, des touchés différents, c'est ça. Donc vous devez vous adapter l'un à l'autre.
C'est merveilleux de s'adapter, c'est comme avec les gens. Et la musique de chambre, c'est vraiment aller vers l'autre, essayer de trouver un terrain commun et à quatre mains, d'autant... Je vous disais tout à l'heure que le quatre mains, c'est en effet très intime comme position physique déjà, mais c'est très difficile. On a le dos vrillé, on a mal aux fesses. Enfin, c'est beaucoup plus facile de jouer à deux pianos. Et donc, il faut s'adapter. Et c'est merveilleux, c'est un bel exercice.
Mais c'est ça l'amitié, c'est s'adapter à l'autre. Est-ce que Frédéric, vous qui connaissez bien Alexandre depuis tant d'années, en jouant à ses côtés, vous découvrez des aspects de sa personnalité, de nouvelles choses?
Oui, on se nourrit, on apprend, on se nourrit parce que tout à coup, la personne avec laquelle on joue articule une note d'une certaine manière et on se dit « Ah mais ça sonne incroyablement bien ». Vous savez, le pianiste, on travaille énormément seul face à notre clavier. Ça isole, il faut se motiver, il faut trouver des sources d'émulation. Et quand on travaille avec d'autres musiciens, bien évidemment, mais encore plus avec un autre pianiste qui a une autre technique, notre approche du son du clavier, ben parfois, ça aussi, ça nous donne des idées. On se dit, tiens, je vais travailler ça de telle manière. Pourquoi le fait-il ainsi? On se pose des questions. Et comme Alexandre, en plus, comme le disait Momo, est très créatif et a toujours plein d'idées sur un tempo, sur un retard, sur une note, sur un son particulier, ben on ressort de là, on se dit, tiens, je vais me mettre au piano et je vais essayer des choses.
Et Philippe Jarouski, vous allez continuer le piano, sachant que vous êtes aussi chef d'orchestre, pédagogue, toujours chanteur.
Je sens un disque chez Warner entièrement au piano.
Et études d'exécution transcendante, vous m'aviez confié tout à l'heure.
Non, mais par contre, c'est vrai que je dois avouer qu'Alexandre aussi, comme il disait, le collègue de droite n'a jamais assez de son. Moi, ça a été aussi une vraie découverte, parce que c'est la première fois que je jouais vraiment sur un grand piano de concert. Donc il a fallu un temps d'adaptation, je me rappelle plus d'une demi-heure pour que j'aie une sorte de patte sonore qui lui permette de jouer lui aussi à côté. Et je crois aussi que le quatre mains, je le vois aussi dans mon académie, on l'utilise beaucoup entre les professeurs et les enfants. L'enfant va pouvoir découvrir aussi toute la plénitude sonore du piano avec le professeur qui le guide à côté. Et ça apprend beaucoup beaucoup de choses, je pense.
Voilà, un magnifique album, plein de fantaisie et plein d'émotions. Parmi les émotions, il y a aussi celle d'entendre Nicolas Angelich qui joue à vos côtés une berceuse de Gabriel Fauré.
C'est l'un de ses derniers enregistrements.
C'est son dernier enregistrement.
C'était très émouvant parce que il était déjà malade et puis. Pour moi, Nicolas, ça a toujours été un gros bébé que j'ai connu aussi au conservatoire. Il n'avait pas encore mué, je me souviens. Et là, finalement, on s'est retrouvés tous les deux. C'était comme à l'époque. Je vous disais tout à l'heure, quand on joue à quatre mains, on sent des choses très profondes de l'autre. Alors là, c'était vraiment une expérience délicieuse. C'est un être aussi extrêmement gentil.
Voilà, que l'on peut entendre dans cette délicieuse berceuse de Fauré. Un album qui vient de paraître, Alexandre Tarot and Friends, chez Erato. Et puis quelques rendez-vous de concert. Vous serez dans quelques jours, Alexandre, le 13 mai, à la Philharmonie de Paris, tout seul.
Ben oui, il faudrait que j'invite mes camarades pour faire des bis. Ça ferait 22 bis à quatre mains.
Mais un programme très varié, hein, puisque vous passerez de Couperin à Debussy et Satie, enfin de la musique française.
Une famille de compositeurs.
Momo Kodama, vous serez le 19 à Bordeaux.
Oui, je vais faire l'intégrale des catalogues d'oiseaux de Messiaen.
Voilà. C'est vrai que vous êtes une merveilleuse interprète, entre autres. On avait déjà eu l'occasion d'en parler, de la musique de Messiaen, Frédéric Westknitter. On pourra vous entendre le 1er juin à la salle Cortot.
Oui, également en récital avec un programme d'œuvres très variées.
Et puis Philippe Jarouski, en attendant la publication de vos études d'exécution transcendante de Liszt, que vous aurez peut-être un jour en récital, quelques rendez-vous notamment avec l'Académie, puisque vous terminez la saison de la promotion Brahms de l'Académie Philippe Jarouski.
Voilà, avec nos 20 jeunes talents, avec l'orchestre de la garde républicaine dirigé par le colonel Boulanger.
Le 14 juin,
voilà,
à la scène musicale.
Un programme fleuve, comme d'habitude, mais avec beaucoup de fantastiques jeunes talents, il faut les soutenir.
Et le prochain rendez-vous sur scène ou dans la fosse?
Prochain rendez-vous sur scène sera au Staatsoper à Berlin, où j'aurai le bonheur de créer le prochain opéra de Marc-André d'Albavy en juillet prochain.
Il y a un Dodo Tarot aussi bientôt à Montpellier, où vous êtes toujours en résidence, Alexandre?
Oui, un Dodo Tarot qui fera suite à un troisième concerto de Beethoven. Dans la même soirée.
J'avais noté le Dodo
avec
Tarot.
Avec l'orchestre de Montpellier. Oui. Et Dodo Tarot, un concert dans le noir, oui, sur scène, avec le public qui sera invité à dormir ou en tout cas somnoler.
Oui, parce que c'est un concept génial, les Dodo Tarot. Merci beaucoup Alexandre Tarot. Merci Philippe Jarouski, Frédéric Westknitter et Momo Kodama. C'était un plaisir de vous avoir tous les quatre dans ce studio. On n'a pas trop joué des coudes, hein, il y avait la place finalement. On va se quitter avec la musique de Pierre Ney avec Philippe Jarouski, le pianiste et partenaire d'Alexandre Tarot. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
Une barcarolle de Gabriel Fauré par Alexandre Tarot et Philippe Jarouski. Un nouvel extrait de ce délicieux album Alexandre Tarot and Friends, pour lequel Alexandre Tarot a d'ailleurs dessiné lui-même la pochette. Il sera, je vous le rappelle, en récital le 13 mai à la Philharmonie de Paris, mais aussi les 31 mai et 8 juin au Quorum de Montpellier, ainsi que les 4 et 5 juillet au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre National d'Île-de-France et Lucie Le Guay pour le grand concert d'été de Radio Classique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambrière pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Celia Onetto Ben Saïd, avec qui nous évoquerons l'univers de Marie-Jaël. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.